Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Des à-coups dans la campagne de vaccination et des livraisons de vaccins au compte-gouttes dans certains départements. Le gouvernement annonce que 300 millions d'euros seront débloqués pour permettre de fabriquer plus de vaccins et de traitements en France. En Israël, la campagne vaccinale donne des raisons d'espérer. Chez les personnes ayant reçu deux injections, le taux de contamination a très sensiblement chuté. Israël commence aujourd'hui un déconfinement progressif. La décrue amorcée en Nouvelle-Aquitaine, sauf en Charente et en Charente-Maritime où l'eau continue de monter. Nous serons à Sainte dans un instant. Dans ce journal également, la journée mondiale sans téléphone portable, invité de cette édition, Nicolas Lelouch, journaliste au site d'information 01net. Et puis nous irons à Marseille avant le choc OM-PSG ce soir en Ligue 1 de football. L'arbitre de la rencontre est sous pression, il ne convient pas à certains supporters marseillais. La météo toujours perturbée cet après-midi, vigilance orange, neige verte. Verglas levé dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais le froid revient. 8 départements restent en vigilance orange inondation. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Et on va donc d'abord s'intéresser au front des inondations et le niveau de l'eau est toujours très préoccupant en Charente et en Charente-Maritime. Si la décrue en Nouvelle-Aquitaine est bien amorcée, à Sainte, en revanche, le pic de crue est attendu demain. Dans la ville, 2000 habitations sont menacées et hier, des dizaines de personnes ont dû être évacuées. Et à la mi-journée à Sainte, Perrine Roguet, le ciel est un peu moins menaçant.
Effectivement, il fait même beau ici, alors à défaut d'avoir les pieds au sec, les habitants et les secours ont au moins du soleil au-dessus de la tête. Là où je suis, je vois tout le centre-ville, les plus petits arbres en bordure de fleuve peinent à sortir la tête de l'eau. On voit aussi le haut de quelques lampadaires, d'habitude il y a un chemin qui longe le fleuve. Les habitants de Sainte et des villes voisines en profitent pour prendre des photos, montrer la crue à leurs enfants. L'une d'elles a même l'impression d'avoir troqué la Charente contre la Loire, tellement elle voit d'eau ici. Le maximum de la crue est toujours prévu pour demain et dépendra de la météo. Les secours continuent de sécuriser des logements et d'évacuer si nécessaire. Dans une ville voisine, à Légon, le maire est soulagé. Il a vu arriver des renforts de pompiers de la Vienne. Ici, 142 pompiers sont toujours mobilisés, renforcés par les départements voisins.
Perrine Roguet, France Bleu, La Rochelle. La campagne de vaccination se poursuit avec des à-coups et un approvisionnement parfois encore limité. Depuis hier, un troisième vaccin, AstraZeneca, est disponible en France et les premières injections ont même eu lieu à Lyon pour le personnel soignant. Mais malgré ces trois vaccins, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech et Moderna, plusieurs centres et plusieurs communes se retrouvent aujourd'hui sans dose de vaccin. C'est le cas notamment à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, qui ne recevra pas de vaccin la semaine prochaine. Le maire d'Hivergauche, Patrick Jarry, demande une réunion d'urgence à la préfecture.
La directrice de l'hôpital a été informée vendredi qu'il n'y aurait pas de dose pour Nanterre pour cette semaine. Je trouve ça totalement incompréhensible et injustifié, puisque jusqu'à maintenant, il y a 13 centres de vaccination dans les Hauts-de-Seine. Chacun avait chaque semaine 420 doses, ce qui évidemment n'est pas beaucoup. Cette semaine, donc Nanterre en a zéro et j'apprends que Neuilly en a 540. Donc à la pénurie, on va ajouter le désordre et l'injustice. Donc voilà, je suis à la fois révolté, je ne comprends pas ce type de raisonnement. Le Nanterrien moyen qui lit le journal et qui voit il y a 540 doses à Neuilly, on lui dit, bah, Nanterre, il y en aura zéro. Comment voulez-vous qu'ils comprennent quelque chose? Donc, il faut être sérieux.
Patrick Jarry, le maire de Nanterre, avec Jules de qui s'efface à ses retards dans la campagne de vaccination et la livraison parfois au compte-gouttes des doses de vaccins. Plusieurs médecins réclament la suppression des brevets des vaccins contre le coronavirus pour pouvoir vacciner plus rapidement. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, estime que le blocage ne vient pas des brevets. Agnès Pannier-Runacher avec Ersin Lebovitch.
Supprimer les brevets, là c'est la fausse bonne idée, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui de blocage. Notre difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des sites de production qui soient homologués et qui soient en capacité de fabriquer. Encore une fois, l'industrialisation d'un vaccin, ça prend en temps normal 12 à 30 mois. 12 à 30 mois. Parce qu'il n'y a pas un lot qui sort d'une usine de vaccins qui n'ait pas fait l'objet de contrôles extrêmement approfondis. Il n'y a pas un équipement qui n'ait pas été homologué. Nous sommes sur une industrie qui est extrêmement contrôlée parce que nous touchons à la santé des gens. Et donc, vous ne pouvez pas convertir n'importe quel site en site de production de vaccins. Il vous faut 4 mois, 5 mois, 6 mois pour le faire à minima et en ayant toutes les ressources humaines qui sont aujourd'hui sur le pont à raison de 15 heures par jour. Hein. Donc ça aussi, c'est un facteur limitant.
Mais pour vous, donc, la concurrence
et tous les équipements
entre les laboratoires, la concurrence financière, y compris sur les profits, etc., n'est pas néfaste.
Je dirais même que la concurrence fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs vaccins.
Agnès Pannier-Runacher a également annoncé qu'un appel à projet de 300 millions d'euros avait été lancé pour permettre de fabriquer plus de vaccins et de traitements en France. Et une bonne nouvelle dans ce contexte un peu lourd nous vient d'Israël, ou en tout cas de bonnes raisons d'espérer. La campagne de vaccination en Israël, champion en la matière, donne des résultats très encourageants chez les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin. Le taux de contamination a franchement chuté. En direct de Jérusalem, on retrouve notre correspondant Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
La campagne de vaccination donne de bons résultats et le pays lève progressivement le confinement en vigueur depuis le mois de septembre.
Oui, très léger déconfinement. Depuis 7 heures ce matin, les Israéliens sont enfin autorisés à aller au-delà d'un kilomètre de leur domicile, par exemple pour rendre visite à des amis. Ils peuvent acheter des plats à emporter au restaurant. Quelques services comme les coiffeurs rouvrent, mais avec seulement un client à la fois. Mais les centres commerciaux, les hôtels, cinémas, théâtres, salles de sport, restaurants, cafés, musées n'accueillent toujours pas de public. Les écoles et les universités, l'aéroport et les frontières sont fermées. Personne n'entre ni ne sort d'Israël. Le Premier ministre Netanyahou a annulé un voyage aux Émirats et à Bahreïn.
Alors Frédéric, les données rendues publiques par les Israéliens sur les vaccins montrent que la vaccination est efficace.
Oui, je vais vous faire une lapalissade, Frédéric. Le vaccin marche quand on a été vacciné. Selon le célèbre Institut Weizmann, le nombre de nouveaux cas et d'hospitalisations se rapproche de zéro chez les plus de 60 ans qui ont reçu leurs 2 doses. Mais chez les 50-60, pour qui la vaccination n'est pas finie, eh bien la situation est très difficile. Ils représentent désormais 97% des morts du corona en Israël. On a encore 7 à 9 000 nouveaux cas par jour, beaucoup chez les juifs ultra-orthodoxes et les arabes israéliens. Près de 4 Israéliens sur 10 ont été vaccinés. Ce record mondial n'est pas suffisant. L'immunité collective sera atteinte quand on en sera à 8 ou 9 vaccinés sur 10 en Israël.
Frédéric Mettezo, en direct de Jérusalem, merci. Et puis en Europe, l'Autriche envisage de produire les vaccins russes Sputnik V et chinois contre le coronavirus. La journée mondiale sans téléphone portable depuis hier et jusqu'à demain lundi. Une drôle de journée pour certains, un temps nécessaire pour décrocher et lever les yeux de l'écran pour d'autres. Il y a 65 millions de téléphones portables en France et nous sommes pratiquement 67 millions de Français. Le téléphone portable ne nous quitte pas, il est pour ainsi dire devenu pour beaucoup une seconde main droite. Peut-on arriver à s'en passer pour 24 ou 48 heures? Guillaume Fariol a posé la question à des étudiants à Nantes.
Je pense que si j'avais pas de portable du tout pendant une journée, il se passerait rien de ma journée.
C'est hyper compliqué. Pour l'organisation de la journée, pour les bus si on va à la BU.
Et je m'en sers aussi pour la fac, mon emploi du temps, toutes les applications maintenant pour le Covid, etc. Puis tout simplement pour s'informer aussi.
Pour tout, vraiment, c'est essentiel.
Pour avoir vécu déjà plusieurs mois sans téléphone, ça a été compliqué quoi. Rien que pour se retrouver avec des copains, pour s'orienter dans la ville.
Moi je pense que c'est très bénéfique une journée sans portable. Oui, je pense que ça peut permettre de se recentrer sur d'autres choses. Passer du temps avec des proches.
Je ferai du piano, je lirai, ou j'irai voir en direct les gens.
Moi je pense que ce serait fun quand même, mais il faudrait qu'on soit tous à le faire. On perd beaucoup trop de temps sur le téléphone, moi le premier. Quand on est en cours, là, sur Zoom, on perd facilement sa concentration. Allez hop, le téléphone.
Bien sûr, on a le téléphone toutes les 2 secondes. Moi, je décroche très très vite.
Le téléphone ou les cours?
Les cours et le téléphone, en fait.
Voilà des étudiants nantais avec Guillaume Fariol de France Bleu Loire-Océan. Et les jeunes, les 15-24 ans, sont les plus gros utilisateurs avec 3h30 par jour en moyenne. Et selon la mutuelle étudiante M, 23% des étudiants passent plus de 6 heures par jour sur leur smartphone. Invité de ce journal, un spécialiste, Nicolas Lelouch, journaliste au site d'information 01Net dédié aux nouvelles technologies et à la high-tech. Bonjour Nicolas Lelouch.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Alors une journée sans téléphone portable, Nicolas, c'est un vrai défi, tant le téléphone portable fait partie de notre vie au quotidien.
Oui, tout à fait. C'est une journée un peu originale. On peut se demander son sens aujourd'hui, d'autant plus que c'est une journée qui a été créée en 2001. Et autrement dit, en 2001, le smartphone n'était pas le smartphone qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, ça servait à téléphoner, on envoyait des messages et on revendiquait pas les mêmes causes qu'on essaye d'avoir aujourd'hui avec ce type de journée. C'est vrai qu'aujourd'hui...
Oui,
Il servait...
Non, c'est-à-dire aujourd'hui, le smartphone, ça sert de GPS, ça sert d'appareil photo, ça sert de baladeur musical, ça vous permet d'envoyer des mails pour le travail, ça vous permet aussi de vous informer, comme disaient les auditeurs que vous avez interrogés dans le sujet. Donc ça n'a plus grand sens de dire qu'une journée sans téléphone permet justement de déconnecter.
Et durant les périodes de confinement au printemps et à l'automne, l'usage du téléphone portable a bondi. Heureusement qu'on avait un téléphone portable.
Complètement. On dit souvent que le monde d'avant était mieux que celui d'aujourd'hui. Je pense, c'est un avis qui n'engage que moi, que ce n'est pas le cas dans le sens où un confinement il y a 20 ans n'aurait rien eu à voir avec un confinement aujourd'hui où on a accès à énormément de choses, que ce soit d'un point de vue divertissement, mais aussi la possibilité d'appeler ses amis, de se contacter à plusieurs, de se voir à distance, et aussi évidemment tout ce qui est prévention anti-Covid, à savoir les applications du gouvernement, comme tous anti-Covid, les sites de vaccination, comme Doctolib, tout passe aujourd'hui par Internet, tout passe par le smartphone, donc on peut difficilement voir le téléphone comme l'ennemi public numéro un. Il y a des choses qui ne vont pas, c'est évident, mais ça reste quand même très utile à la société.
Alors Nicolas Lelouch, c'est quand même une bonne idée de ranger son téléphone portable pour un temps, de lever les yeux des écrans. Ne faut-il pas... plutôt peut-être apprendre à modérer notre utilisation du portable et reprendre le contrôle de l'appareil en fait.
C'est sans doute une meilleure option. Je pense qu'au lieu de parler d'un jour c'était plusieurs jours, c'est trois jours sans smartphone officiellement, on devrait plutôt apprendre toute l'année à réguler son utilisation. C'est une cause d'ailleurs qui est arrivée aux oreilles des géants de la Silicon Valley, puisque depuis quelques années, il y a des options pour mesurer son temps d'écran dans les smartphones qui vous permettent de voir dans les réglages, que ce soit sur iPhone ou sur Android, le nombre d'heures que vous avez passées sur votre téléphone, application par application.
Ouais.
Et ce qui est très important à faire avec ces options, mais aussi avec les menus, vous savez, comme le mode ne pas déranger qui est disponible sur la plupart des smartphones depuis plusieurs années, c'est d'apprendre à se forcer à ne pas lire ses notifications, à peut-être poser son téléphone sur une table et ne pas être tenté par l'écran qui s'allume. Donc tout ça, ça peut être des moyens de réguler son utilisation du smartphone. Et ce qui est une bonne chose qu'on recommande de plus en plus dans le monde des nouvelles technologies, c'est par exemple d'enlever les notifications pour vos mails le week-end. Et ça peut vous permettre de vraiment être moins accro à votre smartphone sans pour autant perdre tous ses avantages.
Alors oui, désactiver les notifications, être moins présent, les yeux fixés sur l'écran, facile à dire, peut-être moins facile à faire pour certains. Est-ce qu'on, dans les familles, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il faille interdire le téléphone portable dans la chambre par exemple ?
Ça peut être évidemment. Le problème, c'est que tout ça peut souvent être contourné. Et on voit souvent de plus en plus de témoignages d'enfants qui ont trouvé le moyen de retirer le contrôle parental de leurs parents. Il y a plein de contre-exemples qui prouvent que cette interdiction formelle n'est pas forcément ce qui va dans le meilleur sens. Par contre, un éveil, un appel justement à se sensibiliser à ces choses et à se rendre compte que finalement, il y a d'autres activités en extérieur qui peuvent être plus sympathiques, le fait de jouer à des jeux de société en famille, ça peut être quelque chose qui va vous permettre d'apprendre aux jeunes à ne plus passer toute leur journée sur le téléphone. Donc c'est sûr qu'il y a plein d'alternatives. Maintenant, vu l'importance qu'a le smartphone dans notre société aujourd'hui, je pense que ce serait compliqué de dire que simplement l'interdire à 100% est la solution.
Et le mettre sur off, les opérateurs téléphoniques ou les fabricants de téléphones qui, à 23h, mettent le téléphone sur off ?
C'est une solution, bien sûr. Pour le coup, vous savez, avec les modes ne pas déranger qu'on a dans le téléphone, on peut programmer des horaires auxquels le mode ne pas déranger va s'activer automatiquement. Et ça, c'est une solution intéressante. Ça serait dire justement que vous décidez qu'à partir de 22h, 23h, en fonction de vos habitudes, vous ne voulez plus recevoir de notifications, vous ne voulez plus avoir votre écran qui s'allume. Et pour vous rassurer, si vous souhaitez avoir des contacts d'urgence, comme par exemple vos parents ou vos enfants, qui eux peuvent outrepasser le mode ne pas déranger pour vous contacter, vous pouvez choisir tout ça dans le mode ne pas déranger. Donc tout ça, ce sont des bonnes habitudes à prendre qui vous permettent au final d'avoir une utilisation plus saine de votre vie numérique.
Merci beaucoup Nicolas Lelouch.
Merci à vous.
Journaliste au site d'information 01net. Merci. Marc Pulvar, une figure du syndicalisme martiniquais décédé en 2008, est accusé d'avoir été un pédocriminel par trois femmes de sa famille. Dans une tribune, Karine Mousseau, aujourd'hui conseillère territoriale, explique que leur oncle s'est livré à des actes de pédophilie sur elle et ses deux cousines. Avec cette tribune, les trois femmes expliquent vouloir en finir avec l'image de héros de Marc Pulvar en Martinique. Marc Pulvar, le père d'Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris, était, disent-elles, un prédateur sexuel. Audrey Pulvar, dans un communiqué, explique soutenir ses cousines et admirer leur courage. À l'étranger, nouvelle manifestation en Birmanie. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour le deuxième jour consécutif dans la plus grande ville du pays, Rangoon. Les manifestants dénoncent le coup d'état militaire et demandent la démocratie et la libération de la dirigeante Aung San Suu Kyi. Ce matin, les connexions Internet ont été partiellement rétablies dans le pays. Caroline Izou, notre correspondante en Thaïlande, a pu recueillir les témoignages de manifestants.
Ils sont sortis au cri de « Nous voulons notre démocratie et longue vie à notre mère Aung San Suu Kyi ». C'est la deuxième journée de manifestation massive en Birmanie, à Rangoon, mais aussi dans d'autres villes comme Mandalay. Les contestataires viennent de tous les milieux et professions de Birmanie. Selon plusieurs observateurs, les femmes représentent la majorité des effectifs. Beaucoup de fonctionnaires de l'État aussi. Ils sont au cœur de la stratégie de désobéissance civile destinée à faire échouer le coup d'État. C'est ce que nous explique Terry, 24 ans, employée de banque à Rangoon. Elle s'est rendue aujourd'hui aux manifestations.
Le gouvernement ne peut pas opérer tout seul. Il a besoin des fonctionnaires et si les fonctionnaires refusent de travailler, le système s'écroule. C'est ainsi qu'on va faire échouer le coup d'État cette fois-ci. Contrairement au coup d'État du passé, on ne va pas attendre 20 ans pour le rétablissement de la démocratie. Nous sommes très déterminés.
Hier soir, de fausses rumeurs selon lesquelles Aung San Suu Kyi avait été libérée avaient provoqué des célébrations dans les rues. Un exemple de plus du pouvoir des fake news dans ce pays où l'armée semble pouvoir ouvrir et fermer les services de télécommunication comme bon lui semble. Bangkok, Carole Izou, France Inter.
Et le pape François a exprimé ce matin sa solidarité avec le peuple birman après le coup d'état militaire. Le pape François exhorte l'armée à œuvrer en faveur d'une coexistence démocratique. Élections présidentielles et législatives aujourd'hui en Équateur. 13 millions d'électeurs doivent élire le président parmi 16 candidats, le vice-président, 100 députés et les représentants équatoriens au Parlement andin, dans un pays en crise économique durement frappé par la pandémie. Cette élection se fait avec, en toile de fond, l'image polémique de l'ancien président Rafael Correa. Les explications de notre correspondant Eric Sanson.
Andrés Arauz, président, Rafael Correa, présent. Dans ce slogan de campagne, il n'y a que deux petites lettres de différence entre président et présent, entre Correa et celui qui se présente comme son héritier spirituel, Andrés Arauz, et a récupéré ses électeurs, selon le politologue Gustavo Hisch.
Le correísmo a toujours eu un vote dur qui n'a pas oublié la gestion de Rafael Correa lorsque l'argent du pétrole coulait à flot. Tant que le niveau de pauvreté structurelle se maintiendra, ainsi que le divorce entre le peuple, les élites et l'État, le correísmo restera en place.
Alors que le nombre des indécis est toujours important, les propositions populistes se sont multipliées dans un pays qui vit pourtant sous perfusion du Fonds monétaire international. Le candidat de droite, qui sera probablement au deuxième tour, le banquier Guillermo Lasso, a proposé par exemple d'augmenter le salaire minimum de 25%, et Andrés Arauz n'est pas en reste.
Ils ont exonéré d'impôts les plus grandes entreprises de l'Équateur, mais ils crient au scandale quand nous proposons une aide d'urgence aux plus pauvres. 1000 dollars à 1 million de familles durant notre première semaine de gouvernement.
Quel que soit le résultat de la présidentielle, aucun candidat ne devrait avoir de majorité législative. Eric Sanson, France Inter, Quito.
Retour en France avec l'événement en sport aujourd'hui. C'est OM-PSG annoncé comme un classique sur un volcan. Depuis 8 jours, le football à Marseille est en ébullition. Violence des supporters, départ de l'entraîneur Villas-Boas, rumeurs de vente. Dans ce contexte, l'affiche ce soir est hors norme. Une rencontre toujours très disputée entre les deux grands rivaux de Ligue 1 et qui n'est jamais très simple à arbitrer. Et pour pimenter le tout, l'arbitre désigné ce soir ne porterait pas chance à l'OM. Jean-Pierre Luimeau.
Les matchs entre l'OM et le PSG font partie des rencontres les plus prestigieuses pour les arbitres, toujours contents d'être désignés, mais très vite rattrapés par la pression, explique Tony Chaperon.
C'est assez curieux parce que ces matchs-là nous font un peu rêver. Et en même temps, là, on prend conscience que les problèmes arrivent. Parce que ce match-là, il est différent des autres.
Au cœur du jeu, l'arbitre ressent particulièrement l'atmosphère unique de ces rendez-vous. Mais pour Tony Chaperon, ce n'est pas une ambiance de gentleman.
On est un peu sur un volcan. L'éruption peut venir d'un peu n'importe où. Parce qu'il y a une telle pression, une telle excitation de la part des joueurs qu'il faut s'attendre à tout moment que ça puisse exploser. C'est une poudrière.
Ce soir, Tony Chaperon regardera le match avec son œil d'ancien arbitre en croisant les doigts pour Benoît Bastien, désigné pour ce classique.
Quand on est arbitre, on se dit « Waouh, pourvu qu'il n'y ait pas d'erreur, pourvu qu'il n'y ait pas trop d'agressivité, pourvu qu'il n'y ait pas de violence. » Donc c'est curieux de dire ça, mais on est un peu supporter de l'arbitre en se disant « Pourvu qu'il ne se passe rien. »
Une solidarité d'autant plus grande avec Benoît Bastien que ce dernier fait déjà l'objet de nombreux commentaires sur Internet. Il ne porterait pas chance à l'OM.
S'il y a un truc qu'il faut absolument faire quand on est arbitre, c'est de ne pas avoir de réseaux sociaux, en tout cas de ne pas les lire. Si vous voulez perdre toute confiance en vous-même, c'est l'endroit sur lequel il faut se précipiter. Moi, quand j'ai eu fait ces matchs-là, moi, je ne lis pas la presse pendant une semaine.
Ce soir, au moins, le public ne pourra pas mettre la pression. Le match est à huis clos.
Jean-Pierre Blimeau, au MPSG, ce soir à 21h. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
C'est un petit raté pour la vigilance orange neige sur le Nord et le Pas-de-Calais où les quantités sont très faibles et les flocons de l'après-midi ne vont pas donner d'épaisseur supplémentaire. Par contre, les températures ont nettement baissé avec en général 0 degré cet après-midi dans l'extrême Nord. Comme ce matin, des flocons vont se mêler à la pluie en seconde partie de journée sur la Normandie, la région parisienne et les Ardennes, généralement sans tenue au sol, avec des maximales de 2 degrés prévues à Rouen, 3 à Paris ainsi qu'à Charleville. Plus au sud et dans l'est, malgré une baisse des valeurs par rapport à hier, les thermomètres vont se stabiliser entre 8 et 11 degrés en général, jusqu'à 15 de moyenne autour de la Méditerranée, avec dans l'ensemble une ambiance maussade, neigeuse à moyenne altitude en montagne. Seul le quart nord-ouest des Charentes à la Bretagne et le pourtour méditerranéen verront le soleil, avec tout de même un risque orageux à signaler pour la Provence. Et actuellement, 8 départements sont maintenus en vigilance orange crue.
Jean-Michel Golinski de Météo France.